Bonjour.
Ça va fort.
La Bible a ceci de particulier qu'elle ne démontre pas l'existence de Dieu, elle l'affirme. Et le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, ne donne pas d'explication du commencement de Dieu, pas de généalogie divine ou autre truc de ce style. Comme tout le reste des Écritures d'ailleurs, elle affirme simplement que Dieu est. Et que Dieu est de toute éternité. C'est parfois dérangeant, peut-être frustrant, qu'on n'ait pas plus de démonstration. Mais si la Bible ne démontre pas l'existence divine, évidemment, elle le révèle, bien sûr. Elle expose qui il est et ce qu'il a fait. Qui est votre Dieu ? Qui est notre Dieu ? Pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons déjà un peu soulevé cette question et je vous propose de l'approfondir encore un peu ce matin pour se rappeler ou peut-être découvrir l'un ou l'autre aspect que Dieu nous révèle de sa personne, de ses attentes, de ses actions ou de ses promesses, sur lui-même mais aussi sur nous-mêmes aussi et sur le monde selon sa pensée. À partir de quelques versets de la Genèse donc, puisse Dieu se révéler toujours davantage à nous et s'insinuer dans chaque recoin de nos vies, de nos esprits et de nos cœurs. Le livre de la Genèse n'est pas non plus un récit scientifique, mais un récit imagé de l'histoire et en particulier des origines du monde, sans être pour autant une légende. Un des professeurs de l'Institut biblique Emmaüs, aime dire que c'est comme une cathédrale dans laquelle on entre et pour laquelle il faut se laisser émerveiller et atteindre par l'esprit. Une cathédrale dans laquelle on entre et pour laquelle il faut se laisser émerveiller et atteindre par l'esprit. Esprit avec un grand E, bien sûr, l'esprit de Dieu. Mais ce n'est pas antagoniste d'une lecture rigoureuse, bien au contraire. Qui est notre Dieu ? Et après cette brève introduction, il y aura trois parties. Et la première partie, c'est peut-être ce que vous voyez déjà là-haut, que j'ai intitulé « Le couronnement de la création ». Et je vous invite à lire ce passage de Genèse, donc Genèse chapitre 2, les quatre premiers versets. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Vous vous dites peut-être qu'on ne va pas apprendre grand-chose sur Dieu à partir de ces versets. C'est vrai qu'il ne se passe rien dans ces versets, parce que Dieu se repose. C'est avant ou après qu'il y a des choses intéressantes. Oui, il y a évidemment plein de choses hyper intéressantes dans ces premiers chapitres du livre de la Genèse. Il y a bien sûr le récit de la création elle-même. Mais comme de nombreuses heures ne suffiraient pas à en faire le tour, tant il y a de choses et d'implications en quelques lignes, on va se concentrer sur cette petite partie qui, vous le verrez, est déjà bien riche d'enseignements. Et aussi parce que moi j'aime bien ce septième jour. Il est rafraîchissant et peut-être bien adapté aussi à ce temps de vacances estivales. Dieu a achevé la création, les cieux, la terre et toute leur armée. Cette armée n'est bien sûr pas à comprendre dans un sens militaire, mais comme voulant dire tout ce que les cieux et la terre renferment, tout ce qu'ils comportent. Création. Ce n'est, ne le cachons pas, un point de contention majeur avec les athées, même si à mon avis peu de gens ont vraiment réfléchi à la question en profondeur. On ne s'étendra pas vraiment sur le sujet ce matin, mais l'univers est-il dû à un pur hasard ou à la conséquence d'une volonté souveraine ? La matière, Est-elle venue à l'existence à partir de rien? Juste comme ça? Par enchantement? Ou a-t-elle été créée par un être suprême? Et la vie? La vie a-t-elle surgi de la matière minérale inerte par une très chanceuse coïncidence dans l'agencement des molécules inertes? Ou la vie a-t-elle été voulue par le Créateur dans un acte d'amour? Je vous laisserai y réfléchir. On peut en discuter quand vous voulez si ça vous intéresse. Dieu est le Créateur. C'est l'affirmation biblique et la confession attendue de tout chrétien. Je l'espère en tout cas. Il y a diverses compréhensions et interprétations du comment et du détail du comment, mais toute personne qui a la foi en Dieu, le Dieu de la Bible, devrait être créationniste et non pas athéiste, qui est son contraire. Nous croyons en un Dieu créateur, et dans notre passage, il vient d'achever la création. Et selon ce verset que nous avons lu, qu'est-ce qui n'est pas le couronnement de la création ? Qu'est-ce qui n'est pas le couronnement de la création ? Un avis ? L'homme, par exemple. L'être humain. L'être humain n'est pas le couronnement de la création. La nature non plus n'est pas le couronnement de la création, ni dans son ensemble, ni dans un des éléments en particulier ou un autre, ni un arbre, ni un animal, ni même une majestueuse montagne, ni un astre particulier. Beaucoup de gens se sont émerveillés dernièrement sur l'éclipse de lune. Ni même tout le cosmos et ses milliards d'étoiles. C'est le premier constat à faire. Ni l'homme, ni la nature ne sont le couronnement de la création. Il ne s'agit pas de les dénigrer, car tout cela est très bon, selon les propos mêmes de Dieu rapportés dans le verset précédent, en Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. L'homme, très bon. La nature, l'univers, très bon. Mais chaque chose doit être à sa place. Le créé, comme la créature, ne peuvent se mesurer au Créateur et ne sont en aucun cas le couronnement et le centre de la conclusion de cette création. On vient de le chanter, la création loue ton nom, et ce n'est pas l'inverse. Dans ces premiers versets de la Bible, il y a clairement opposition avec toutes ces religions païennes ou formes humaines de pensée qui adorent la mère nature, ou un de ses éléments, ou une créature, ou qui, bien sûr, même vénère l'homme et ses exploits. Ouais, on pourrait dire, ça c'est du passé. C'était il y a 3500 ans, à l'époque où a été écrite cette Genèse. L'être humain a-t-il vraiment évolué depuis? J'en doute fortement à bien des égards. Considérez par exemple toutes ces formes de pensée qui mettent l'homme en avant, ou toutes les superstitions qui nous entourent encore, ou considérez simplement nos modèles de société moderne, et considérez comment chacun mène sa propre vie. Même si tout le monde reconnaîtra que la Terre n'est pas le centre de l'univers, et que l'homme n'est pas le centre du monde, ce que la Bible a d'ailleurs toujours dit aussi, il n'y avait pas lieu de condamner Copernic ou Galilée, force est de constater que les sociétés modernes et leurs philosophies mettent quand même bien l'homme au centre. L'homme et son bien-être, au centre des préoccupations, au centre de toutes les attentions, au centre des progrès technologiques, au centre de l'organisation personnelle, au centre des agendas, des loisirs, etc., etc. Et qu'en est-il de nous ? Qu'en est-il de nous ? Au lieu de mettre l'homme au centre, les plus écologistes diront peut-être « Ouais non, c'est la planète au centre !» plutôt que les désirs égoïstes de l'homme. Mais même là, on est encore loin d'être en ligne avec ces versets que nous venons de lire. L'homme est image de Dieu, donc il ne s'agit pas de le dévaloriser. La bonne gestion de la planète fait aussi partie du mandat reçu de la part de Dieu, donc il faut en prendre soin. Mais le couronnement de la création, c'est ce qu'on vient de lire, c'est le repos divin. la bénédiction et la sanctification de ce septième jour. Ainsi le souligne ce texte. Étrange, non ? Le couronnement de la création, c'est le repos divin. La bénédiction et la sanctification de ce septième jour. Ça n'a l'air de rien de le dire, mais comme on vient de voir, ça implique énormément de choses. En termes de vision de société, en termes de philosophie, de priorité de vie, en termes d'éthique, que ce soit éthique du travail ou éthique du repos, des loisirs et des plaisirs. Égocentrisme, moi au centre. Anthropocentrisme, l'homme au centre. Ou théocentrisme, Dieu au centre. Ainsi, en complément de notre question initiale, qui est votre Dieu ? Ces versets invitent aussi à une question parallèle. Où est votre Dieu ? Où est votre Dieu ? Est-ce qu'on le met en périphérie de nos vies ? Ou au centre ? Est-ce qu'il en est le couronnement ? Ou juste un élément parmi d'autres ? Essentiel ? Ou pas vraiment déterminant ? C'est une vraie question, essentielle et vitale, que nous devrions nous poser et nous reposer régulièrement. Deuxième partie, je peux passer à la page d'après, parenthèse littéraire, scientifique et philosophique, j'ai intitulé ça. Dieu acheva en 6 jours les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu acheva son œuvre le 7e jour et il se reposa le 7e jour. 6 plus 1. Remarque pour les littéraires parmi nous, une telle structuration en 6 plus 1 est courante dans la littérature du Proche-Orient ancien. Et cette façon d'écrire est évidemment pas fortuite. Par cette séparation, Dieu met clairement le 7e jour à part des autres. Ce passage, comme tout le récit de la création d'ailleurs, a en fait beaucoup de particularités littéraires. Alors je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut. Mais c'est dommage que nos traductions françaises, et dans les autres langues européennes d'ailleurs aussi, ne le montrent pas mieux, car le texte est encore beaucoup plus riche qu'on peut le voir ou qu'on peut le croire à première vue. J'ai essayé de le montrer, là, vous pouvez le voir. Plusieurs mots en français sont parfois un seul mot en hébreu. Mais on peut facilement voir que ce qui est relatif au 7e jour, donc ce qui est en bleu et violet sur le fichier, si vous le voyez bien comme ça, en couleur, c'est pris en sandwich entre 2 résumés répétitifs en gris, dans ce que vous voyez, de la création achevée. Verset 1, la création achevée. Verset 4, la création achevée. Et entre les deux, ce passage pour mettre en exergue le 7e jour. Et c'est une façon en hébreu, dans la littérature hébraïque, de faire ressortir la partie centrale, primordiale d'un texte. Et en plus, si vous regardez bien les trois propositions en bleu, en hébreu, il y a 3 fois la mention du 7e jour dans une séquence de 7 mots. Première partie du verset 2, deuxième partie du verset 2 et première partie du verset 3. 3 fois 7 mots pour parler du 7e jour. Coïncidence ou style délibéré ? Et ça, dans nos bibles en français, on ne le voit pas. Personnellement, je ne crois pas aux coïncidences. Et cette structure hébraïque est là aussi pour en faire ressortir la deuxième partie du verset 3 qui met en avant justement pourquoi. Pourquoi ce 7e jour ? Et Dieu affirme, c'est parce que je me suis reposé. Voilà pourquoi ce 7e jour. Couronnement de la création. Parce que Dieu se reposa. Si on avait le temps, on pourrait encore souligner différents éléments littéraires remarquables dans ce texte, mais je ne voudrais pas vous lasser sur le sujet. D'ailleurs, on s'en fout, On s'en fout des détails artistiques ou littéraires, non ? Je vais me faire lyncher par les profs tout à l'heure. C'est des fois ce qu'on se dit, mais on aurait tort de le croire. Et j'ai volontairement souligné ces aspects-là pour mettre en avant le fait que le texte original en hébreu est tout, sauf un récit maladroit, tout sauf bâclé, ou même simplement banal, tout au contraire. Ce n'est pas simplement Moïse qui s'est dit « Tiens, et si j'écrivais une petite histoire sur l'origine du monde ? Genre carnet de voyage ou roman de gare pour distraire le peuple pendant les longues soirées d'hiver ?» Non. tout, chaque phrase, chaque mot, chaque détail est assurément posé, réfléchi, structuré. Tout est inspiré même, on pourrait dire. Oui, évidemment, inspiré par l'Esprit de Dieu. Alors Moïse était sûrement quelqu'un de très intelligent, peut-être supérieur à la norme, à la moyenne, mais quand même, il a été bien aidé par Dieu pour lui inspirer ses écrits. Telle est aussi ma conviction, et la vôtre aussi, j'espère, Dieu a inspiré le livre de la Genèse et toute la Bible. Car il y a une même richesse littéraire dans tous les livres de la Bible. L'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec, ça demande un peu d'effort pour s'y plonger, pour le découvrir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes spéciales, particulières, grammaticales, de style, pour faire ressortir des choses que malheureusement dans nos traductions on ne voit pas. On a encore bien des choses à découvrir, et moi le premier, mais plus je m'y plonge, et plus je m'émerveille, et plus je réalise que ce n'est pas une simple œuvre humaine, cette Bible, aussi bien ficelée soit-elle. Il y a ici bien plus, en tout cas pour qui veut bien se donner la peine de creuser, de méditer, d'approfondir. Et en tant que pasteur, c'est une de mes motivations maintenant, de nous donner goût à la parole, nous donner goût à cette parole, nous faire aimer cette parole dans toute sa richesse, car c'est vraiment une parole hors du commun, parole de vie, et nous en avons besoin pour nous nourrir. Ok, super, magnifique. Mais pourquoi une telle insistance sur le fait que Dieu se soit reposé ? C'est quoi ce septième jour de la création précisément ? On a compris, ce n'est pas un jour d'activité comme le furent les six précédents. Mais au contraire, Dieu acheva son œuvre en se reposant. Mais ça veut dire quoi ? C'est pas évident de bien comprendre. En tout cas, le septième jour, c'est sûr, a un caractère particulier. Et l'accent est vraiment mis sur le fait que Dieu a cessé son œuvre créatrice, et c'est important. Et il en découle, et ça c'est une remarque pour les scientifiques parmi nous, que dans la vision biblique du monde, Dieu a établi un cadre stable, et son action créatrice a cessé pour laisser place au jeu des lois qui régissent sa création. Oui, Dieu a établi un cadre stable, et les lois physiques fondamentales sont les mêmes depuis la création de l'univers. Elles n'ont pas changé. Les lois de la thermodynamique en particulier. Tous les scientifiques s'accordent pour dire que cela n'a pas changé depuis le premier instant. Et la Bible aussi. C'est fou, non ? Et entre parenthèses, et ça c'est une remarque pour les philosophes, s'il y en a parmi nous, cela s'oppose aussi à la vision de certains quant à un évolutionnisme généralisé, et pas seulement biologique. Non. Dieu a fait un acte créateur pendant un certain temps, et le septième jour, il s'est reposé. Évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu est parti, Dieu ne s'occupe plus de nous, il n'intervient plus. Évidemment, non. Au contraire, toute l'histoire de la rédemption exposée dans la Bible est bien l'affirmation de Dieu qui parle et qui agit encore, car Dieu est vivant et Dieu est présent. Et il s'intéresse, il se soucie même, dans le bon sens du terme, de sa création et donc de nous, depuis l'instant zéro et jusqu'à aujourd'hui. Oui, la création est terminée, mais Dieu est toujours là, présent, proche de nous au quotidien. Et enfin, cette troisième partie qui nous invite à entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos de Dieu. On peut d'abord distinguer sabbat divin et sabbat humain. Dieu se reposa. Il y a bien sûr ici autre chose qu'une idée de repos physique. Dieu ne s'est pas physiquement reposé. Ce n'est évidemment pas à considérer au sens littéral. Dieu serait-il un homme pour avoir besoin de se reposer ? Bien sûr que non. Et je rappelle entre autres le psaume 121, au verset 4, qui dit clairement que Dieu ne se fatigue pas et que Dieu ne dort pas. Donc s'il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin de se reposer, et donc effectivement il ne dort pas. Mais ce que ça souligne ici, Dieu se reposa, avec comme on l'a souligné la symbolique du chiffre 7 notamment, c'est une idée de perfection, ou de complétude, le fait d'avoir fini réellement quelque chose, dans le sens d'amener quelque chose au but désiré. Le septième jour complète la séquence de la création en lui donnant un but. C'est le jour qui reconnaît la signification de ce qui a été accompli. L'acte proprement dit, c'était au chapitre 1 dans la Genèse, la création elle-même. Et dans nos versets de conclusion, c'est le dessein, D-E-2-S-E-I-N. Et ce septième jour a un statut spécial. Il appartient à Dieu seul. Il appartient à Dieu seul. Dans la version Semeur, la traduction du verset 3 comporte « Dieu bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé. » Avec le sabbat, donc c'est le verbe en hébreu qui signifie « se reposer ». C'est le verbe, alors je ne pourrais pas le prononcer en hébreu comme il faut, mais « se reposer » égale « sabbat ». C'est le mot hébreu pour cela. La création peut ainsi pleinement entrer dans sa vocation de louange et d'adoration envers Dieu. La création, avec le sabbat, peut pleinement entrer dans sa vocation de louange et d'adoration envers Dieu. C'est pour cela que le jour lui est réservé. Ah ouais, je vois le genre. Dieu ne veut pas que l'homme soit égocentrique, parce que c'est lui qui veut être au centre. C'est lui qui est égocentrique. Non, ça choque personne ce que je dis, bon, c'est pas grave. Dieu se réserve-t-il un jour particulier pour qu'on l'adore parce qu'il est égocentrique? C'est ça selon vous? Non, évidemment, ça serait mal le connaître, mal connaître qui il est, mal connaître le corps de Dieu, que de comprendre ce verset ainsi. Dieu vivait déjà au sein de la Trinité une parfaite harmonie et un parfait amour de toute éternité. Alors ne croyons pas qu'il avait besoin de nous, et surtout pas pour flatter un quelconque ego. Dieu a créé par amour, et il aime sa création, et il prend plaisir en elle, en particulier quand elle est en communion avec lui. Et là est le sens de ce sabbat. Ce repos divin n'a rien d'égocentrique, tout au contraire. La bénédiction et le repos de Dieu, de notre passage, introduisent aussi bien sûr la thématique du sabbat de l'homme, le repos de l'homme. Car on ne peut pas considérer ces versets de Genèse sans également lire leur écho dans les 10 commandements, dans le Décalogue, en Exode 20, versets 8 à 11, que vous devez avoir aussi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Même vocabulaire dans ce passage, même rappel de la structure 6 plus 1. Et ce quatrième commandement est assurément bien plus qu'un commandement à subir comme une obligation de la part d'un Dieu exigeant. Même si malheureusement les différents clergés religieux, juifs puis chrétiens, l'ont souvent déformé petit à petit pour qu'il ne soit plus perçu que comme une obligation pesante et désagréable. J'espère qu'on ne vous dit pas que vous êtes obligé de venir au culte, mais que c'est un privilège de venir au culte. Dans l'esprit de ces versets, c'est à la base effectivement tout au contraire une grâce et un privilège, quelque chose de bénéfique et même de salutaire, être obligé de se reposer. Évidemment, de nos jours, avec les 35 heures, les 5 semaines de congés payés, les week-ends de 2 jours... On fait peut-être la fine bouche, juste sur un petit sabbat. Mais c'est à l'époque, il y a 3500 ans, quelque chose de révolutionnaire. Le droit à un repos hebdomadaire. Le droit à un jour de repos chaque semaine et pour tout le monde. Pour tous, les étrangers, les esclaves aussi. Parce que serviteur et servante, qu'on a dans notre traduction, c'est aussi le même mot pour esclave, homme, esclave, femme. Même eux ont le droit à un jour de repos institué par Dieu. Ça, c'est vraiment révolutionnaire pour l'époque, révolutionnaire dans ces sociétés-là. Mais ce n'est pas nécessairement si naturel que cela. même pour nous. Ce n'est pas toujours facile de faire confiance à Dieu comme étant celui qui pourvoit. Parce qu'il y a ça derrière ce sabbat. Dieu dit en substance, ne vous inquiétez pas, travaillez seulement 6 jours et je pourvoirai à vos besoins pour 7 jours. Travaillez 6 jours et je pourvoirai à vos besoins pour 7 jours. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec notre frigo et notre congélateur bien garni, notre compte en banque assez confortablement approvisionné souvent, on a en général un peu, voire beaucoup de marge de manœuvre et de quoi voir venir. Mais ça ne devait pas être si évident dans une civilisation agricole où pour beaucoup de gens pauvres, la capacité à manger tous les jours dépendait directement du fait de travailler tous les jours. Placer sa confiance en Dieu contre toute apparence. Est-ce qu'on y arrive mieux aujourd'hui ? Dieu, en tant que créateur, nous connaît mieux que quiconque et mieux que nous-mêmes. Et ainsi, dès ses premières lignes, la Bible introduit la notion de repos hebdomadaire aussi, car c'est un besoin de l'être humain. Besoin physique, besoin physiologique. Et bien loin d'être égocentrique, cette institution du sabbat, c'est une preuve d'amour de notre Dieu, d'amour du Créateur envers sa créature qu'il connaît, car Dieu sait que nous avons besoin de repos. À commencer, donc, je le disais, par ce repos physique. Le repos, un temps qui n'est pas voué à la production, et dès l'Antiquité, Dieu propose un autre rapport au monde que celui du travail, un autre rapport au travail même. Il propose un rythme de nos vies qui soit sain et pas avilissant. Le repos marque aussi un rythme et donne des valeurs différentes aux différents moments de la vie. Mais mieux encore, le repos proposé, est un temps de bénédiction et de consécration. Dans l'Antiquité, l'opposition était peut-être plutôt par rapport au travail de tous les jours dans les champs. Pour aujourd'hui, peut-être que c'est en opposition plutôt à une société de plaisir ou de loisirs excessifs. Mais en tout cas, on insistera sur la dimension spirituelle aussi, car le vrai repos, c'est d'être en relation avec Dieu pour bénéficier de sa grâce et de sa bénédiction. Le vrai repos, c'est d'être en relation avec Dieu pour bénéficier de sa grâce et de sa bénédiction. Être ressourcé, et en particulier spirituellement. Voilà le sens profond de ce texte. Le repos est un temps de bénédiction et de consécration où nous abandonnons notre prétention à être le Dieu de notre vie. Nous abandonnons notre prétention à être les dieux de notre vie. Entre autres choses, nous reconnaissons que le monde ne s'arrête pas quand nous nous arrêtons. Nous reconnaissons que la terre produit par la grâce de Dieu, car la bénédiction dépend de Dieu et pas de notre travail, même si notre travail est utile dans ou pour cette œuvre de bénédiction de la part de Dieu. Et bien sûr, nous reconnaissons aussi ainsi notre besoin de Dieu. On peut faire les fiers, mais reconnaissons que ce n'est pas si naturel que ça de reconnaître pleinement le sabbat. Sanctifions-nous le sabbat ? Je me remets en cause le premier, hein, d'autant plus qu'en tant que pasteur, maintenant je travaille le dimanche. Alors, est-ce que je sanctifie vraiment mon temps pour Dieu ? Qu'est-ce qui prime dans mon organisation ou le remplissage de mon agenda ? La confiance en Dieu ? Ou mon bien-être, ou soyons généreux, le bien-être de mes proches, ou le travail, parce qu'au fond, il faut bien le reconnaître, je suis quand même indispensable. Entrons-nous dans le repos de Dieu. Pas si facile, hein. Et puis, est-ce qu'entrer dans le repos de Dieu, ça veut vraiment dire ne rien faire et lui rendre un culte toute la journée ? Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où Dieu reproche aux gens de ne pas sanctifier le sabbat, mais aussi, on peut aussi constater que la majorité des exemples dans les évangiles, ça concerne Jésus lui-même, faisant quand même une activité le jour du sabbat, et on sait que c'était un sujet de grande friction avec les pharisiens à l'époque. Comment comprendre alors ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire ? Pas facile, hein ? Peut-être peut-on se poser la question différemment et se demander, fais-je toutes les choses que je fais pendant le temps que je devrais sanctifier avec le même esprit que Christ, avec le même altruisme, avec la même considération dans la prière au préalable, avec la même adéquation de ma volonté à la volonté divine, avec la même intention de le louer et de rendre gloire à lui seul par ce que je fais ? Ça fait plus qu'une question. Mais... fais-je vraiment toutes les choses que je fais pendant le temps que je devrais sanctifier avec le même esprit que Christ, avec le même altruisme, avec la même considération dans la prière au préalable, avec la même adéquation de ma volonté à la volonté divine, avec la même intention de le louer et de rendre gloire à lui seul par ce que je fais. Je laisserai à chacun le soin de répondre, évidemment. J'ai une petite idée de ma réponse, peut-être de la vôtre aussi. Sabbat éternel, repos de la foi. Jean chapitre 5, versets 16 et 17 rapporte que les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit », un verbe qui se traduit aussi « est à l'œuvre » ou « travaille » jusqu'à présent, « moi aussi, j'agis ». Donc Jésus et Dieu travaillent aussi le jour du sabbat. Et en lien avec le fait, que vous l'avez peut-être remarqué, que ce septième jour, dans la Genèse, contrairement aux autres six jours, n'est pas clôturé par un soir et un matin. Ces paroles du Seigneur présentent un argument en faveur d'un sabbat divin qui est permanent, mais qui bien évidemment n'est pas oisif de la part de Dieu. Oui, on peut dire que le sabbat de Dieu dure jusqu'à présent et que Dieu y est à l'œuvre. Ce sabbat qui n'est pas clôturé par un jour et un matin, ce sabbat de Dieu dure jusqu'à présent et Dieu y est à l'œuvre. Ça en fait un jour bien particulier. Au IVe siècle, saint Augustin écrivait que le sabbat sans fin était le contexte de la vie idéale en Éden. Le sabbat sans fin était le contexte idéal de la vie idéale en Éden. Nous y sommes entrés en acceptant la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ce qu'affirme et souligne l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, en faisant un parallèle entre la vie nouvelle avec Dieu par la foi et le repos de Dieu au septième jour. Et je vous invite vivement à relire aussi ce passage, à méditer chez vous, ce chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Je vais juste en lire quelques versets, moi. Hébreux 4, verset 3. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Puis Hébreux 4, versets 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. En fait, entrer dans le repos de Dieu, bénir et sanctifier ce septième jour, n'est en fait pas tant une histoire d'activité ou de non-activité, ou d'un jour de la semaine ou d'un autre, mais d'une communion restaurée et alors permanente avec Dieu. Entrer dans le repos de Dieu, c'est une histoire de communion restaurée et permanente avec Dieu. Dans les derniers jours du récit de la création en Genèse, il y a deux pics qui se suivent de près. La création de l'homme, au sixième jour, image de Dieu, et l'établissement du jour de repos, au septième jour, où cet homme, image de Dieu, est appelé à accomplir sa vocation principale, qui est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui, pour l'éternité. Glorifier Dieu et se réjouir en Dieu, en lui, pour l'éternité. Dimanche n'est pas le sabbat chrétien. Dimanche n'est pas le sabbat chrétien. C'est toute la semaine, toute l'année, toute la vie du converti, qui est le sabbat. Nous nous reposons en Dieu de toutes nos œuvres, car nos œuvres ne nous sauvent pas. La foi seule sauve. C'est ça le repos de la foi. Nous nous reposons sur Dieu. Nous nous reposons en Dieu. Et c'est le sens éternel du septième jour. Nous nous reposons en Dieu de toutes nos œuvres, car nos œuvres ne nous sauvent pas. La foi seule sauve. Et cette analogie de la foi lie trois éléments. Premièrement, le repos de Dieu le septième jour. Deuxièmement, le sabbat pour le peuple de Dieu. Et troisièmement, donc, l'application permanente, pas au sens littéral, mais au sens théologique, du sabbat au repos de la foi. L'application du sabbat au repos de la foi. Une application permanente. Oui, par la foi, nous sommes en repos. Par la foi, Dieu nous a donné du repos pour nos âmes. Nous étions fatigués et chargés, mais nous avons répondu à l'invitation du Christ. Nous étions condamnables et condamnés par avance. Nous sommes désormais sauvés. Il y a de quoi être soulagé. Il y a de quoi être en repos. On a chanté tout à l'heure « Chante mon âme ». Mais si notre âme peut chanter, c'est normalement parce qu'elle est en repos, parce qu'elle a retrouvé cette communion et communication avec le Créateur. Ainsi, pour le chrétien, chaque jour est sabbat. Tout le temps du chrétien est saint, mis à part pour Dieu. Et nous pouvons vivre, quel privilège, sous le signe du sabbat 7 jours sur 7. Oui, maintenant, je comprends pourquoi le repos de Dieu, c'est le couronnement de la création. Je comprends pourquoi le repos de Dieu, c'est le couronnement de la création. Hébreux 4, verset 7 encore. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Êtes-vous en repos ? Votre âme est-elle en repos ? Dans le repos de Dieu ? Si ce n'est pas encore votre cas, ne perdez pas une seconde de plus. Son invitation pour vous tient encore aujourd'hui. N'hésitez pas. Saisissez la main que Dieu vous tend. Vous ne le regretterez jamais. Oui, je l'atteste. C'est une belle invitation de la part de notre Dieu. Bon repos à chacun. Amen.